La musique de l'ascenseur, chapitre 27. Boucher souffrait d'insomnie depuis des jours et des jours. Son teint cireux et ses cernes noires sous les yeux laissaient deviner le manque de sommeil. Il passait et repassait en boucle les cassettes et le CD offerts par Jacqueline Lambert. Sa décision était prise. Il se rendrait ce week-end sur le site de la Croix de l'Alpe. Il voulait s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'un simple canular au goût douteux. Une incertitude pesa jusqu'à l'ultime instant quant au choix le plus approprié de sa montée vers la révélation qu'il espérait. Se rendre à cet endroit revêtait un aspect sportif. L'homme ne reculait pas face à une telle éventualité. L'activité du commissariat l'obligeait à travailler la matinée du samedi. Le choix du jour du Seigneur s'imposa donc tout naturellement à lui. Il s'interdisait de monter en altitude l'après-midi, cela ne paraissant pas raisonnable en cette fin d'été. Il n'eut aucune peine à se lever tôt ce matin-là. Ses insomnies n'abandonnèrent pas la partie. Il dormit 3 heures tout au plus dans la nuit. Ses démons le torturaient insidieusement. Après avoir lu les dernières nouvelles en avalant un café noir au bar des Platanes, il s'installa au volant en direction du massif de la Chartreuse. Sur une route étroite, les véhicules montaient vers le parking terminal avant de partir en randonnée. Il subodora l'affluence sur le chemin qui grimpait vers l'Alpe. Il n'avait pas appréhendé qu'il s'agissait du dimanche précédant la rentrée scolaire. De nombreuses familles profitaient de ce week-end de relâche avant que les enfants ne soient scolarisés. Avec les cours et les devoirs, un grand nombre de citadins resterait chez eux le reste de l'année. Tout au long de la voie sinueuse qui l'amenait vers une piste forestière, l'inspecteur fredonnait un air que jouait la trompette de Miles Davis. À son tour, le virus du jazz le gagnait. L'obsession s'insinuait par tous les moyens. Un poison à effet dévastateur s'instillait lentement en lui. La hantise de l'affaire Lambert le dirigeait droit dans le mur. Pris par l'action et l'activité quotidienne, il ne s'en rendait pas compte. En solitaire qu'il était, il opérait sans filet. Pas de soupape de sécurité, pas de confidente ou de confident. Il tournait autour de son idée fixe, sans personne pour l'aiguiller vers un monde plus réel. L'étroitesse de la chaussée obligeait les conducteurs à rouler à vitesse réduite. Il passa un hameau où le ruban de bitume tracé entre 2 vieilles bâtisses n'offrait le passage qu'à un seul véhicule. Heureusement, à cette heure matinale, il n'y avait qu'un flot de voitures dans le sens ascendant. En début d'après-midi, la situation deviendra kafkaïenne. Il y aura ceux qui monteront et ceux qui repartiront. Même sur les routes forestières, il arrive que la circulation soit encore plus difficile qu'en centre-ville. Les animaux de la forêt devraient attendre avec impatience l'arrivée du seigneur automne pour pouvoir enfin disposer de tout le territoire à leur guise. Ils admettraient quelques forestiers jusqu'au premier grand froid. Après, ils retrouveraient la quiétude des longues journées d'hiver. Le soleil fera de brèves apparitions. La nuit prendra possession du temps. Elle le cannibalisera, ne laissant à l'astre solaire qu'une portion congrue. Il ne méditait pas sur la vie dans le bois. Oh non, il avait déjà la tête tout là-haut. L'asphalte céda la place aux cailloux. Par endroits, les orages violents d'été creusèrent des sillons. Les chauffeurs avisés se déportaient tantôt d'un côté ou de l'autre pour ne pas se retrouver immobilisés dans ces ornières ou toucher le sol avec les pots d'échappement. Il effectua une demi-douzaine de manœuvres de ce type avant d'atteindre la fin du tronçon carrossable. Les places de stationnement se remplissaient inexorablement. D'ici peu, une file se formerait le long du chemin. Les croisements deviendraient un exercice de haute voltige. Les accotements meubles réserveraient leurs mauvaises surprises aux imprudents. L'ensoleillement n'atteignait pas encore cette partie du parc. Un air frais enveloppait le parking du Génépi. Dans le massif, De nombreux parkings se trouvaient affublés de noms de plantes ou de fleurs. Ici, il n'y avait pas de génépi, mais depuis une dizaine d'années, la dernière ère de parkage se désignait sous ce vocable. Il gara précautionneusement son véhicule. Il se vêtit à la montagnarde. Une veste avec de multiples poches, un pantalon de velours, une paire de grosses chaussettes en laine et des chaussures qu'il n'avait pas utilisées depuis longtemps, sans oublier une casquette identique à celle des joueurs de baseball. Il s'était équipé d'un petit sac à dos pour emmener un pull, de la boisson, des fruits et des barres de céréales. Notre homme pouvait tenir 2 jours seul dans la montagne avec tout cet attirail. Le policier pesta contre lui-même. Il avait oublié de prendre un bâton. Cet accessoire s'avérait fort utile lorsque le sol devenait incertain et qu'il convenait de trouver des appuis plus sûrs que ceux de ses propres jambes. Il se dit que le sentier balisé paraissait assez sec. Il ne devrait pas être pénalisé par une telle lacune. En haut du parc à automobile, un panneau indiquait les différentes directions ainsi que les durées de marche. Le parcours choisi s'effectuait en 2h30. L'enquêteur savait que les indications prévoyaient large. Un bon marcheur effectuait le trajet plus rapidement. Dès le début de l'ascension, il fut confronté à 2 difficultés. Le manque d'entraînement provoqua un essoufflement trop rapide. Il dut ralentir en attendant le second souffle. Le deuxième souci se révélait être le nombre élevé de marcheurs se dirigeant dans une direction identique à la sienne. Les enfants gambadaient dans tous les sens. Cela devenait franchement désagréable. Il faisait penser à ces jeunes chiens qui effectuent des allers-retours incessants sur les chemins. Il savait d'expérience que quelques lacets plus haut, la marmaille commencerait à accuser le phénomène de l'altitude avec aussi une légère fatigue. Avec un peu de patience, il tiendrait jusque-là. Il eut froid au démarrage. L'itinéraire, situé dans une anfractuosité de la paroi rocheuse, restait désespérément dans l'ombre. Il apercevait quelquefois un rayon lumineux en bas dans la vallée. Les forestiers avaient œuvré dans le secteur. Des billots de sapins d'un diamètre respectable attendaient d'être évacués vers la Syrie. Des tas de branches mélangées aux écorces jonchaient le sol et le talus adjacent. À l'origine, la voie aménagée dans les bois servait uniquement aux bûcherons. La vulgarisation des sorties en montagne modifia l'usage de ces pistes, à la grande satisfaction des promeneurs, le balisage apportant la touche de sécurité supplémentaire dans un ensemble où pour le néophyte tout se ressemble. Il savait se diriger sans carte et sans boussole. Il lui suffisait de regarder la trajectoire du soleil et la mousse sur le tronc des arbres. En l'espace de quelques secondes, il était en mesure de déterminer sa position par rapport aux points cardinaux. Son sens de l'orientation en milieu hostile lui fut souvent fort utile. Il pensait surtout à la Croix de l'Alpe. Il craignait de rencontrer trop de monde au sommet et autour du calvaire pour espérer agir à sa guise. Cette pensée le contraria, car il souhaitait découvrir enfin la vérité. Cela faisait trop longtemps qu'il pataugeait dans cette affaire. Il se demandait ce que Joël Lambert lui réservait tout là-haut. Il échafaudait diverses hypothèses. Il voyait Joël Lambert transformé en Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Jack Numa revêtait les habits de Dracula. Jacqueline Lambert se transformait en affreuse Cruella. Même ses idées les plus farfelues ne l'empêchaient pas de penser à la musique de l'ascenseur. Il essayait de faire le rapport entre la mélodie caractéristique, l'ambiance du film qui s'y rattachait et les différents meurtres commis dans la rue Paquet et ses environs. Il longea une falaise pendant plusieurs minutes. La prudence s'imposait. Le passage délicat nécessitait une attention particulière. Il mesurait 60 cm tout au plus. D'un côté, il y avait la paroi, de l'autre, une barrière en bois vermoulu, au-delà, un ravin à pic d'une 50aine de mètres. Chacun avançait en assurant son pas. Le profil plat de la chaussée rassurait les craintifs. Les autres passaient sans trop ralentir le rythme. Le reste du parcours se déroula sans encombre. Il y eut un couloir avec de gros rochers. L'enquêteur regretta d'avoir oublié son bâton. 2 heures d'effort plus tard, le plateau lui apparut dans toute sa magnificence. Ce qu'il craignait s'avéra exact. Il y avait pléthore de promeneurs. Il jugea de la difficulté à se placer au pied de la croix et à l'examiner sous toutes les coutures. Les marcheurs s'étaient déplacés en famille ou entre amis. Il se dit qu'il était probablement l'unique esselé du coin. Il savoura avec délectation le paysage. Face à lui, sur le replat, se trouvait un pâturage d'été, un alpage. Au milieu, 2 vestiges des siècles passés rappelaient aux visiteurs qu'ici se trouvaient les limites du royaume de France. Avec sa fleur de lys et celui de Piémont-Sardaigne et la croix de Savoie. L'homme se présenta en premier sur la borne délimitant ces 2 territoires. Usée à la patine du temps et offerte aux intempéries de l'histoire, elle avait résisté à tous ses aléas. Elle témoignait à ceux qui faisaient l'effort de venir jusqu'à elle. La croix était plus récente. Elle dominait le site à proximité de sa compagne. Sans fioriture, confectionnée dans du sapin, elle commençait à accuser le poids des ans. Il faudrait songer à la changer, pensa Boucher. Le socle en béton était occupé par un groupe qui avait choisi de pique-niquer là. Il emprunta le sentier qui partait dans les rochers dominant le site. Le panorama coupait le souffle. À sa droite, une sapinière de couleur sombre contrastait avec la blancheur de la falaise posée sur la gauche. Des vaches paissaient tranquillement au-dessous des bois à l'écart des migrations dominicales. Personne n'osait franchir les clôtures. Le taureau, maître des lieux, imposait le respect. Il se disait qu'il aurait mieux fait de choisir sa pâture au pied de la croix. Aucun n'aurait osé poser son garde-manger à cet endroit. Au fond de l'horizon, le Mont Blanc complétait harmonieusement ce décor de carte postale. À l'opposé, la chaîne des Belles Donnes terminait le tableau. Arrivé au sommet de l'éboulis, le policier sortit un sandwich de son sac. Il se restaura en contemplant ce sublime emplacement, un havre de sérénité. De son promontoire, il voyait le calvaire. Il le surveilla longuement. Rien n'y faisait. Une farandole d'enfants prit le relais des pique-niqueurs. De nombreux curieux s'y arrêtaient. Il comprit qu'il ne pourrait agir en solo aujourd'hui. Il décida de redescendre par le pierrier et de s'approcher du monument.